Loué et remercié soit le nom du Seigneur. Ma voix n'est plus la meilleure. Et je demandais au frère Rousse s'il veut dire quelque chose. Et il a dit non. Aujourd'hui, il m'est difficile de dire quelque chose parce que, en raison des deux remarques que nous avons faites hier, ça a apporté un peu de malentendu parmi nos visiteurs. Et ça a éveillé l'impression que nous aurions blâmé tous les autres, tout le monde, et les enfants de nos frères et sœurs n'ont pas été concernés. On peut se donner le plus grand effort pour dire quelque chose et alors tout le tact ne sert à rien et la sincérité ne sert à rien. Il y aura toujours des hommes qui le comprendront mal. Je demande sincèrement toutes mes excuses d'avoir même fait une remarque. En fait, ce qui a déclenché cela a fait en sorte que j'ai voulu y répondre et j'en suis désolé. J'avais aujourd'hui déjà même les larmes dans les yeux. La dernière chose que nous voulons faire ici, c'est de blesser quelqu'un. Et non, et nous voulons que tous se sentent bien de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Chaque couleur de peau et qui que nous soyons. S'il y a des séparations de race et de la discrimination, donc c'est aux États-Unis, mais pas ici. Et nous demandons à tous nos frères et nos sœurs de ne donner aucun accès à cet esprit. S'il vous plaît. Faites-vous vous-même ce plaisir. Ne donnez aucun accès à... Permettez aucun accès à cet esprit. Nous qui vivons en Europe, nous ne pouvons pas comprendre entièrement ce qui s'est passé avec la race de couleur noire. Ils ont été asservis 300 ans, oppressés, déshérité, défavorisé. Et ça va faire seulement il y a 14 jours, j'étais assis avec un général des États-Unis à une table et il était de couleur noire. Et il m'a dit, si vous n'étiez pas européen, si vous étiez américain, j'aurais même pas parlé avec vous. Et il a dit, le sang va couler sur les routes. J'ai des centaines d'armes dans ma cave et des munitions qui pourront suffire pour 6 mois. Et il y aura un bain de sang comme jamais auparavant. Je lui ai dit, cher monsieur, je suis un homme qui proclame l'évangile et qui prêche l'amour de Dieu. Ne voulez-vous pas penser à cela? Un peu y réfléchir? Et il m'a dit, en nous, je ne veux même pas continuer à raconter ça, ne permettez pas que de telles pensées vous animent. Ça n'a pas d'importance de quelle couleur de peau vous seriez. Il y a des hommes sur terre qui ne s'aiment pas. Des gens sur terre qui ne s'aiment pas. Aussi parmi les peuples, parmi les nations. Je l'ai vu, je l'ai vécu 2 fois. Une fois à Gisborne, en Nouvelle-Zélande, lors d'une grande conférence. Après la prédication, vint un homme à moi et m'a embrassé et pleurait, m'a serré dans ses bras et pleurait et a dit, frère Franck, pardonne-moi. J'ai haï les Allemands. J'ai haï les Allemands. Et tu es le premier Allemand que je peux maintenant aimer. Oui, mais je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu as haï les Allemands? Est-ce que tu avais été déjà, t'es déjà venu en Allemagne? Tu as déjà été en Allemagne? Il me dit non. Mais j'ai vu tous les films que les Anglais ont tournés et ils ont été pendant plusieurs années dans notre pays ici montrés. Ces films-là ont été montrés et j'ai vu dans chaque Allemand un criminel. Qu'est-ce que j'en peux? Moi, étant né Allemand, qu'est-ce que j'en peux? Pensez-vous que je n'ai pas honte de ce que 6 millions de Juifs aient été tués? Pensez-vous que je ne sais pas comment est-ce que je ressens quand aussi dans différents pays on me pose la question et qu'on m'interpelle concernant cela? Qu'est-ce que j'en peux? Et aussi concernant cela, les larmes me viennent et je peux prouver par l'écriture que les 6 millions de Juifs ne seront pas au compte de l'Allemagne, mais au compte du Vatican. J'ai assez bien lu l'histoire et l'histoire de l'Église. Je sais de quoi je parle. Je sais qui a introduit cette guerre et pour quel objectif. Alors que je prêchais aux États-Unis, il y avait un vieil ami de frère Branham, Bryn Bryan. Vous pouvez écouter son nom, entendre son nom dans plusieurs sermons de frère Branham. Et subitement, il vient vers moi et me dit, je dois te le confesser, que j'ai haï les Allemands, j'ai haï les Allemands. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, mais ça, tu vas le comprendre. Alors que nous étions en Normandie, nous avions atterri en Normandie et que nous avons été attaqués par les Allemands, j'ai été blessé et j'ai été pris dans la captivité, etc. Et il pleurait amèrement. Et il m'a dit, pardonne-moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois te pardonner? Il m'a dit, oui, pardonne-moi. Et il m'a dit ensuite, pour que tu puisses aussi croire, me croire, que je t'aime de tout mon cœur, je t'offre ma Cadillac. Et réellement, il est sorti avec moi, il a pris la clé et les papiers de la voiture et je me suis assis dans la belle Cadillac noire avec des sièges en cuir rouge et je ne m'étais jamais assis dans une telle voiture auparavant. Et alors je suis sorti, je suis descendu et je lui ai dit non, je peux même pas payer le carburant que cette voiture consommerait. Alors conserve-la, garde-la, que Dieu te bénisse pour cela. Je mentionne cela seulement à cause de nos bien-aimés frères et sœurs qui ont été blessés par la remarque que j'ai faite hier. Pardonnez-moi et que Dieu aussi vous bénisse richement et soit avec vous. Les Russes ne sont pas nos ennemis, ce sont nos amis. Par exemple, si les politiciens font une politique si mauvaise, si méchante, et frère Madame le disait, tous les peuples de la terre sont gouvernés par le diable. Il est le prince de ce monde qui apporte ce désordre partout et cette confusion partout. Je l'ai vécu à Moscou. En fait, cela est unique sur toute la terre. Et la salle était sûrement remplie de 800 ou 900 personnes. Et vous savez, qui à la fin sont entrés, ont afflué. À la fin, c'était des militaires. Beaucoup de soldats sont entrés, sont venus devant. Et de chaque grade, vous savez, l'académie militaire était directement en face du lieu ou bien pas loin. Et ils sont venus. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Après à peu près 15 ou 20 minutes de prédication, il y a eu dans toute la salle, dans toute la congrégation, Ils ont tous commencé à pleurer. J'ai jamais vécu un tel service divin où des centaines furent saisies de la grâce de Dieu à ce point et ont pleuré de tout leur cœur. Ont pleuré. Nous avons comme croyants qu'un seul et unique ennemi, et ça c'est Satan. Nous sommes des frères et des sœurs. Je voudrais vous lire cela des Saintes Écritures et encore une fois, s'il vous plaît, adresser à tous ceux qui ont été blessés, que ces paroles, vous puissiez les recevoir comme baume de Gilead, et que les blessures soient guéries. Que Dieu puisse l'accorder. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 15. Alors, pour la seconde fois, une voix lui cria : ce que Dieu a purifié, ne le déclare pas impur. Ensuite, du même chapitre, Actes des Apôtres 10, c'était le verset 15, maintenant nous lisons le verset 28. Verset 28, Actes des Apôtres 10. Vous savez combien il est sévèrement interdit à un juif d'avoir des relations avec quelqu'un qui appartient à un autre peuple et même d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré. Mais Dieu m'a montré qu'il n'est pas permis de qualifier un homme de souillé ou d'impur. Sur la croix à Golgotha, le salut a été accompli pour tous les peuples, les langues, les nations. Dans Apocalypse 7, il est écrit: et je vis devant le trône une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Je vais vous montrer des Saintes Écritures. Et je vais vous montrer des Saintes Écritures que nous sommes tous fondamentalement, tous remontés à Adam en tant qu'ancêtre ou descendant de lui. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Il a aussi fait que tout le genre humain venant d'un seul, patriarche habite sur toute la surface de la terre. Amen. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons utiliser le temps. Je voudrais lire deux versets de l'Ancien Testament, de 2 Chroniques, le chapitre 14. 2 Chroniques, le chapitre 14, le verset 10, et du chapitre 15. Le verset 7. Alors Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et pria: Éternel, pour secourir, il n'y a pas de différence pour toi entre le fort et le faible. Sauve-nous donc, Éternel notre Dieu, car c'est en toi que nous mettons notre confiance. Et c'est en ton nom, que nous sommes sortis contre cette superpuissance. Tu es l'Éternel notre Dieu. Aucun homme n'aura le droit de s'opposer à toi. Une parole très merveilleuse. Frère Pézal a lu de Romains 10 concernant la foi et nous mettons notre confiance en Dieu. Nous ne croyons pas en nous, et ça aussi nous pouvons le dire ouvertement, nous ne croyons pas non plus en aucun prophète. Nous croyons seulement ce que Dieu par les prophètes a prononcé. Mais l'objet de notre foi, c'est Dieu et personne d'autre. Et l'objet de notre adoration et de notre culte, c'est Dieu et personne. Et car c'est ainsi que le Seigneur a dit, je donne ma gloire à aucun d'autre et mon honneur pas non plus aux idoles. Il est l'objet de notre adoration. À lui appartient la louange, la gloire et l'adoration de tout notre cœur. Nous l'avons déjà souligné et ressorti que nous n'avons pas l'esprit de l'idolâtrie, mais l'esprit de Dieu. Et celui qui a l'esprit de Dieu et qui a aussi la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, alors il peut adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Et le Seigneur dit dans le premier des commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi, à côté de moi. Il n'y a qu'un seul Dieu, constitué d'une seule personne. Et ça, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël. C'est ainsi que plus de 6000 fois, il est désigné dans la Bible. Et le Dieu d'Israël est le Dieu de toute chair. Il a donné des promesses et il les accomplit. Peut-être aussi cela, comme orientation, donné comme orientation, alors que le Seigneur, selon Matthieu 10, envoyait ses disciples, il leur a dit, n'entreprenez pas le chemin vers les nations. Je vous envoie seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël, car le temps des nations n'était pas encore arrivé autrefois. Mais nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 13 que là, le temps était arrivé et que Paul, n'est-ce pas, l'a exprimé d'une manière très merveilleuse. Je voudrais justement lire cela pour que vous puissiez savoir que Dieu, qui a fait le commencement avec un peuple, c'est lui aussi qui fera la fin avec ce peuple. Mais que entre le commencement et la fin est le temps des nations. Et c'est dans ce temps des nations-là que Dieu appelle une épouse pour lui, pour son nom, à sortir. Et nous n'avons pas besoin d'être jaloux, d'envier Israël, car l'épouse sort des nations. C'est ainsi. Il y a des hommes qui ont une haine mortelle pour Israël. Vous ne pouvez pas le comprendre. Mais alors que j'étais en Jordanie et en Égypte et que je prêchais, ça allait encore un peu. Mais en Syrie, là, il y a eu la grande catastrophe. À Damas, j'avais prêché et ça allait encore bien. Mais quand j'ai prêché à Aleppo, et là, il y a eu la grande catastrophe là-bas. Je n'étais même pas conscient qu'une haine mortelle, aussi même au milieu des croyants, existait contre Israël, parmi les croyants. Et dans la prédication, j'ai fait que mentionner que les promesses s'accomplissent et que Dieu rassemble en ce moment le peuple d'Israël. Oh, vous savez alors ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé sur toute la terre. Cela ne m'est jamais arrivé. Je devais faire mes bagages On m'a même pas accompagné au bus. J'ai dû entreprendre 300 km avec le bus. On est venu me chercher à Damas, n'est-ce pas, au début, avec honneur. Et ensuite, on m'a renvoyé. Et ce que j'ai entendu sur le peuple d'Israël là-bas, je ne peux pas vous le répéter ici. Incroyable. Qu'ils auraient été les plus grands criminels, les plus grands agresseurs, etc. Tout ce qu'ils m'ont raconté. Et alors, je me suis posé une question. Le frère qui avait la parole et qui parlait et qui conduisait une école dite biblique et qui enseignait les autres, je lui ai demandé, mais frère, n'as-tu pas de respect pour, n'as-tu pas de respect devant la parole de Dieu? Il m'a dit, si, devant la parole de Dieu, j'ai du respect, mais pas devant ce peuple sale d'Israël, souillé d'Israël. Vous pouvez vous imaginer, oh, ce qui s'est passé en moi. Je ne parle pas de toutes ces choses. Mais on remarque qu'il y a des croyants dans lesquels il y a encore de la haine. Mais quelle sorte de croyant cela est s'ils peuvent avoir de la haine, s'il est écrit que nous devons même aimer nos ennemis. Et si quelqu'un me dit qu'il respecte la parole de Dieu, alors qu'il puisse respecter cette écriture, ce passage, car elle est écrite dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est écrit concernant le peuple d'Israël. Le Seigneur a dit que ma droite pourrisse si j'oublie le peuple d'Israël. Ça, c'est l'Éternel qui l'a dit. Tant que les ordonnances demeurent, le peuple d'Israël demeurera. Dieu a donné les promesses qu'à la fin des jours, il les rassemblera, il les ramènera dans le pays de leur père. De plus de 100 pays, ils sont revenus dans leur pays. Que Dieu bénisse Israël. Le Dieu d'Israël, qu'il puisse bénir Israël. Celui qui bénit Israël sera béni de Dieu. Et celui qui le maudit sera maudit. Mais vous voyez, tout ce qui peut se passer et exister, tout ce qui peut exister parmi ces soi-disant croyants. Hein? Oh, que Dieu soit remercié pour ces jours que nous avons ensemble passé ici devant la face du Dieu Tout-Puissant. Et je crois pouvoir dire que personne sera comme il a été auparavant, après ces réunions que nous avons sûrement. Personne de nous repartira comme il est venu. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans chaque cœur. Ça, je le crois. J'ai entendu déjà les nombreux témoignages. La porte du bureau a fait que s'ouvrir et se fermer, ouvrir et se sortir et se fermer continuellement. Et si je demande qui a été vraiment béni de Dieu de manière d'une bénédiction qui demeure, pas qui demeurera, pas seulement une joie passagère et une onction passagère, mais quelque chose qui demeure, de fondamental, de profond, une nouvelle consécration. Et cette placée de manière nouvelle sur l'autel de Dieu, afin que nous puissions vraiment ainsi commencer avec lui dans la foi, cette année 88, mais avec fondament, avec une base profonde, avec pour commencer cette année comme jamais auparavant. Il y a un frère qui est venu et qui m'a dit, frère Franck, nous venons depuis des années ici, mais nous n'avons jamais vécu, frère Rousse, et toi, nous vous avons jamais entendu prêcher de cette manière. Dieu a fait quelque chose de particulier dans ces jours. Il a opéré une circoncision dans nos cœurs. Et avec les choses avec lesquelles nous nous étions traînés, Dieu ne nous permet plus, ne le tolère plus. Il s'est placé au travers de notre chemin. Et il a dit, stop, maintenant je ne vous permets plus de continuer à marcher comme ça et à vous conduire ainsi. Que le Seigneur soit remercié pour les décisions, pour les larmes qui ont coulé, pour ce qui est vraiment quelque chose de demeurant en nous, par la parole, par le sang et par l'esprit, et opéré par l'esprit, produit par l'esprit. En quoi est-ce que nous distinguons des autres? S'il s'agissait seulement de frapper dans les mains, alors pendant les réunions, alors tous, nous pourrions tous le faire, mais tous les mouvements charismatiques le font. S'il s'agit de sauter et de crier de joie et de danser, mais nous serions même encore derrière tous les mouvements charismatiques. Mais Dieu parle par le prophète et il dit, j'enverrai une faim dans le pays, pas une faim envers l'eau, envers le pain, pardon, et une soif envers l'eau, donc une faim envers le pain, mais d'écouter, une faim d'écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est agissante de manière variable, de manière multiple. D'un côté, elle est une nourriture spirituelle, mais d'un autre côté, elle nous corrige, elle nous enseigne, elle nous laisse savoir le dessein du salut de Dieu dans la parole de Dieu. Nous avons tout. Mais que dit notre Seigneur? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pas seulement de dire, oui, la parole est précieuse. Oh, les prédications sont merveilleuses. Oh, le message est puissant. Et la nourriture spirituelle, etc. Ça ne suffit pas de le dire. Mais si la parole est vraiment devenue ta nourriture et ma nourriture spirituelle, alors laissons-nous dire comme notre Seigneur lui-même le disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est à ce moment-là que la parole deviendra une réalité divine dans ta vie et dans ma vie. Et alors nous avons alors même plus d'envie de rassembler des frères et des sœurs autour de nous pour leur dire ceci et cela. Alors nous avons seulement qu'un seul désir. Oh Dieu, que tu puisses atteindre ton but avec moi, ôte ma dureté, mes propres pensées, ma méchanceté et mes propres volontés. Et conduis-moi dans ton plan parfait, que je puisse être une partie de ce que tu fais maintenant. De 2 Chroniques, chapitre 15, je lis maintenant le verset 7. 2 Chroniques 15, verset 7. Et vous, soyez forts. Ne laissez pas vos mains se relâcher, car vos actions seront récompensées. Il est écrit de fortifier nos mains relâchées et nos genoux affaiblis et dessus avec nos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et il est écrit qu'il ne brisera pas le conduit plié, il n'éteindra pas la mèche fumante. Et je crois que le Seigneur l'a fait pendant ces jours. Il a de nouveau rallumé des mèches fumantes. Et comment est-ce que cela s'est passé? Parce que la lampe a été alimentée d'huile. Quand est-ce que la mèche fume? C'est quand il n'y a plus d'huile dans la lampe et que c'est seulement l'huile qui est sur la mèche elle-même qui reste. Et les vieux le savent. Comment est-ce qu'on a tourné pour que la mèche monte quand elle commence à fumer? Je connais bien, mais quand il manque de l'huile, alors ça ne sert à rien de tourner pour que la mèche monte. Alors la lampe s'éteint. Mais Dieu, dans ces jours, nous a accordé la grâce, au sens même du mot. Cela s'est accompli. Rassemble-moi mon peuple avec lequel j'ai fait une alliance par le sacrifice. Dieu a fait une alliance avec nous. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Et c'est pour cette raison que nous écoutons les paroles de l'alliance. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance? Il y avait la parole du Seigneur, de l'Éternel, la parole de Dieu. Il y a encore aujourd'hui des hommes, des gens qui prétendent que la colonne de feu vient toujours dans leur réunion et qu'ils la voient et même la prennent en photo. Moi, je ne voudrais pas juger ça. Je ne voudrais rien dire là-dessus. Car cela n'est pas à nous de porter un jugement. Mais quand nous observons l'histoire du peuple d'Israël, alors je lis que la nuée et la colonne de feu dans les jours de Moïse étaient avec le peuple d'Israël. Mais que ensuite, pour eux, la parole révélée a été mise dans l'arche de l'Alliance et que des hommes de Dieu ensuite prirent l'arche de l'Alliance du temps de Josué et qu'ils ont traversé le Jourdain parce que Dieu l'a divisé et ils sont entrés dans le pays de la promesse. Après être entrés en possession de lui, je crois que tout ce que Dieu voulait révéler, il l'a révélé dans notre génération. Et à cela, rien ne peut être ajouté. Ça ne peut que être, on peut que s'approfondir et encore plus entrer. Cela peut toujours plus nous être éclairci et les choses peuvent toujours plus nous être montrées dans leur contexte, dans la parole de Dieu. Mais ce que Dieu a laissez proclamer et révéler par son serviteur, le prophète, à cela rien ne peut être ajouté. Vous savez combien d'interprétations des Écritures existent. De la même manière, il y a beaucoup d'interprétations aussi qui existent à l'intérieur du message lui-même. Et si quelqu'un me demandait, quelle interprétation est la juste, quelle interprétation? Alors la réponse est la correcte. Alors la réponse est très simple. Aucune d'elles est juste. Aucune interprétation est juste. Il n'y a pas d'interprétation juste. Il n'y a que... Il n'y a qu'un retour juste dans les Saintes Écritures, dans le contexte de la parole, et une reconnaissance juste de l'objectif et du sens du message divin prophétique et de l'objectif de l'envoi de son serviteur le prophète, celui que Dieu nous a envoyé. De quoi il s'agissait en fait? Il s'agissait de nous révéler les enseignements bibliques, les mystères, le destin du salut de Dieu, la fin des temps, les promesses, tout a été placé et mis en lumière sur le chandelier. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants. Chaque prédication qu'il a tenue, et il y avait toujours un passage comme base des Saintes Écritures, au moins un passage, un ou deux passages. Donc, chaque prédication qu'il a tenue sont venues des Saintes Écritures et elles nous ont ramenés de nouveau dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit, vous n'avez plus besoin de lire la Bible parce que de toute manière, vous ne pouvez pas la comprendre, que c'est seulement le prophète qui l'avait comprise et il a prêché et celui qui lit maintenant ses prédications, tout est déjà en ordre. Il n'a plus besoin de lire la Bible. Alors vous pouvez dire, Satan, arrière de moi. Vous pouvez directement dire, Satan, arrière de moi. Le Amen n'était pas assez fort. Pas encore fort, pas assez. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'entends pas bien d'une oreille, c'est possible. Mais je vais vous dire, je sais de quoi je parle. Il y en a qui m'ont déjà dit, toi, tu es rétrograde, tu penses que tu connais bien la Bible. Oui, tu penses que tu t'en sortirais avec la Bible. Oui, je m'en sortirai avec la Bible. Je m'en sortirai avec la Bible. Et toi aussi. Mais comment est-ce que nous lisons la Bible maintenant? Nous la lisons dans la lumière de la parole révélée. C'est vrai. Nous lisons une Bible tout à fait nouvelle pour nous. Et pendant que nous lisons la Bible, nous ne nous faisons pas de propres pensées pendant la lecture, mais en nous, le dépôt des pensées divines qui sont contenues dans le message divin sont dans notre cœur. Et pendant que nous lisons la Bible, il y a une telle plénitude de pensées divines qui viennent du dépôt de notre cœur. Et nous pouvons que nous enthousiasmer et être étonnés de voir la clarté qui nous est accordée par l'Esprit de Dieu, par la lecture de la parole. Et nous pouvons dire, comme t'es merveilleux, oh Dieu, que personne ait l'impression que je voudrais, d'une manière ou d'une autre, mépriser le ministère de l'homme de Dieu, le prophète. Mais je sais de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de glorifier un homme. Il y a beaucoup de disciples de frère Branham. Beaucoup. Qui ne sont même pas nés de nouveau. Qui n'ont même pas expérimenté une nouvelle naissance. Qui ne savent même pas où Dieu habite. Et qui disent simplement, celui qui croit le message, il ira dans la gloire, ou bien alors il est même déjà enlevé. Il y a beaucoup de choses. Celui qui croit le message, alors écoutez ce que Jean a dit. Ceci est le message qui était depuis le commencement et que nous vous annonçons. Il n'y a qu'un seul message divin et c'est celui qui était au commencement. Et nous le trouvons même dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je me répète volontiers. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète. Car la parole vient toujours au prophète. Où aurait été un sacrificateur ou bien un scribe à qui la parole serait venue? Ils auraient trop de choses dans leur tête avec qui Dieu ne pourrait pas s'en sortir. Non, Dieu, il a utilisé un hillbilly qui est né au Hemsfield, Kentucky, dans une hutte en bois, là où le vent et la neige entrent dans la hutte. Mais le jour de sa naissance, je crois que c'était vers 3 heures, il naquit à 5 heures. Et la colonne de feu, la nuée est entrée dans la hutte et est restée suspendue sur l'enfant. Et la sage-femme et la mère, elles se sont demandé, mais quel. Parce que c'était visible pour elles, elles se sont demandé, mais qu'est-ce que cela signifie? Les prophètes ne sont pas choisis par les hommes comme certains l'ont fait dans les dénominations, ou bien le font dans les dénominations. Les prophètes sont choisis par Dieu et ils naissent prophètes dans ce monde. Et ils le sont depuis le ventre de leur mère. Au moins ceux qui ont un ministère lié à l'histoire du salut. Il y a des prophètes dans l'église aussi, comme Agabos l'était, Agabos et d'autres qui étaient des prophètes dans l'église locale, selon Actes des Apôtres chapitre 13. Ici, il est écrit, Actes des Apôtres 13, au verset 1, en ce temps-là, à Antioche, les prophètes et les enseignants suivants travaillaient ensemble dans l'église de cette ville. Et ensuite, ils sont énumérés. Il y a des prophètes. Ce sont des hommes qui ont la parole prophétique par révélation, la voix telle que les prophètes qui était d'un caractère lié à l'histoire du salut, l'avaient reçu comme révélation de Dieu. Et ils sont dans l'église locale, ils ont la grâce de recevoir la même révélation. Et je ne veux pas ici m'enorgueillir. Non, ce n'est vraiment pas le cas. Je suis, et c'est vraiment pas le cas. Je suis à 100% convaincu. Ce que nous prêchons, ce que nous proclamons, pourrait être prêché en présence de tous les prophètes et en présence de tous les apôtres. Cela subsistera devant Dieu parce que c'est la pure et absolue parole de Dieu. Pas sortie de son contexte ou bien comme ça, ajustée à une certaine direction, mais exposée de manière claire et ouverte telle que le Seigneur l'a révélée. C'est la dernière réunion que nous avons au commencement de cette année, et je voudrais, à ce que nous avons entendu, lire Romains chapitre 12 avec la demande envers Dieu et adressée à nous tous, que nous puissions mettre ça en pratique pour que Dieu puisse se glorifier. Romains chapitre 12. Verset 1. Je vous avertis donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable à Dieu. Nous voulons avoir un service divin dans lequel Dieu peut se glorifier. Et pour qu'il puisse se glorifier, nous devons lui offrir nos corps sur son autel. Mais bien aimé, si Dieu veut parler, alors il a besoin d'une bouche. Si Dieu veut que à quelqu'un les mains lui soient imposées, alors il a besoin les mains d'une personne pour le faire. Si quelqu'un veut t'envoyer, si Dieu veut t'envoyer quelque part, alors il a besoin de tes pieds. Il a besoin de notre être entier. Il a besoin de moi entièrement. Il a besoin de toi entièrement. Et pour que cela soit possible, nous devons mourir et offrir nos corps sur son autel et nous tenir ainsi à sa disposition avec nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos pieds, nos mains, tout notre être, notre corps tel qu'il nous a créé, l'offrir comme un sacrifice vivant. Nous devons nous mettre entièrement à sa disposition, de la tête aux pieds. Sommes-nous prêts à le faire? Est-ce que nous voulons faire confiance à Dieu qu'il nous donnera de le réussir par sa grâce? Qu'avons-nous entendu dans la parole d'introduction? Que c'est avec le cœur qu'on croit à justice, mais avec la bouche, on confesse à salut, à béatitude. Nous devons, ce que nous croyons de notre cœur, le prononcer de notre bouche. C'est à ce moment-là seulement que cela deviendra une réalité divine pour nous. Tant que c'est seulement quelque chose que nous croyons dans notre cœur, n'est-ce pas? Ça va tourner autour de nous et ça ne viendra pas une réalité. C'est seulement au moment seulement où ce que Dieu te dit et a fait pour toi dans sa parole, au moment où tu le crois, tu dis Amen et tu le crois dans ton cœur et que tu le prononces. C'est à ce moment-là que le diable aura perdu tout droit sur toi. C'est ainsi, ça, je pourrais vous lire à cela Marc 11, verset 22, verset 23. Là, le Seigneur dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, vous dites déplace-toi et jette-toi dans la mer. Parce que vous jeûnez et priez, tout cela fait partie de ça. Mais nous devons, je crois que nous l'avons entendu, la parole est proche de toi, de ta bouche, pour que tu la prononces. La parole de la foi. Alléluia. C'est simplement dire oui et de se tenir à la disposition du Seigneur. Ne conformez pas, Romains 12, verset 2 maintenant, ne conformez pas votre manière de vivre à celle du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos sens, afin d'acquérir un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu, à savoir celle qui est bonne, agréable et parfaite. Nous parlons beaucoup de la volonté de Dieu. Et nous disons, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Ici, il nous est dit et il nous est montré comment est-ce que nous pourrons faire la volonté de Dieu. Et d'abord, pour, comment pouvoir bien d'abord la comprendre et la connaître. Et vous, regardez ces paroles-là dans le contexte avec la volonté de Dieu. Regardez ce qui est écrit ici. Il est dit ici, la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Pas la volonté permissive, mais la bonne. La bonne, agréable à Dieu. Et ensuite, pour finir, la volonté parfaite aux yeux de Dieu. Agréable aux yeux de Dieu. Bonne, agréable aux yeux de Dieu. Ça, c'est un haut objectif. Un objectif élevé. Et pour cela, nous devons dire, Seigneur, qui pourrait atteindre cet objectif? Comment est-ce que cela pourrait être possible? Alors, ne vous inquiétez pas, la parole de Dieu est parfaite et dans la parfaite volonté de Dieu est contenue déjà la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Elle est déjà contenue dans la parole de Dieu. Nous avons seulement besoin qu'elle nous soit révélée par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ainsi. Dieu, le Saint et le parfait, l'omniscient, le présent, et qui sait tout, et qui est présent partout, dans sa parole. Il nous a révélé sa volonté bonne, agréable et parfaite. Ces trois choses sont liées à la volonté de Dieu. Et nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu un temps sur terre dans lequel la parole de Dieu aurait été ainsi de tous ses angles et ses côtés éclaircis. Pas seulement de tous les angles et de tous les côtés, mais du ciel. L'appel était un appel céleste. Et Paul pouvait dire autrefois, je n'ai pas été désobéissant à l'appel céleste, mais je me suis levé, je me suis mis en chemin, en route. Il y a un appel céleste. Et un tel appel céleste, frère Branham l'avait aussi. Et Dieu l'a envoyé. Je pense à la parole dans Hébreux. Si ceux à qui Dieu autrefois avait parlé de la terre n'ont pas pu échapper, comment nous pourrons échapper si nous rejetons celui qui parle avec nous du haut des cieux? Moi, je crois que Dieu lui-même, par l'inspiration du Saint-Esprit, a parlé par Frère Branham. Et c'est ainsi qu'il nous a ramenés à la parole de Dieu. Nous avons, dès maintenant, nous n'avons pas besoin dès maintenant d'interpréter les prédications de Frère Branham ou bien d'interpréter les Saintes Écritures. Mais tous, nous avons besoin de la même inspiration par le même Saint-Esprit pour ainsi entrer dans ce même pas, à marcher dans le même pas, pour que ensemble nous puissions tous aller de l'avant. Les autres versets, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, vous pourriez les lire vous-même à la maison. Je lis à partir du verset 9, Romains 12. Que l'amour soit sincère sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Avons-nous là aussi un amen? Est-ce que c'est notre désir sincère? Après la pure proclamation de la parole de Dieu, de passer à un amour sincère, pur dans le cœur, purifié des croyants, pour que nous puissions dire que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dans un cœur pur. L'amour de Dieu ne cesse jamais. L'amour humain, il s'arrête, il abandonne, il ne tient pas. Mais l'amour de Dieu ne s'arrête jamais, ne cesse jamais, ne périt jamais. Et c'est pourquoi nous pouvons savoir, et pas seulement croire, que le Seigneur achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Car c'est l'œuvre de son amour divin. Deux passages bibliques seulement. Ainsi Dieu a tant aimé le monde. Et le deuxième passage biblique, c'est par amour, Éphésiens 1, c'est par amour qui nous a élus avant même la fondation du monde et qui nous a prédestinés à être ses fils. L'amour de Dieu ne s'arrête jamais. Là, je peux presque lire dans les pensées maintenant. Quelqu'un est en train de penser en lui-même maintenant. Oh, il est pourtant écrit que son nom ne sera pas effacé du livre de vie. Vous l'avez aussi lu dans le livre « Les sept âges de l'Église ». Laissez-moi vous dire clairement qu'il est possible si que des personnes soient rayées du livre de vie. Mais il n'est pas possible qu'elle soit rayée du livre de vie de l'agneau immolé. C'est une différence de taille. Dans le livre de vie, il y a tous les hommes qui ont cru en Christ et qui ont vécu, expérimenté la justification, car c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Mais dans le livre de vie de l'agneau immolé, il n'y a que les noms de l'Église épouse. Et là, il n'y a pas d'effacement. Nous serons pour toujours dans l'éternité. Et là, le frère Branham a utilisé l'expression « eternal security », « sécurité éternelle ». Ne laissez aucune pensée s'installer en vous. Peut-être même que quelqu'un pense maintenant, oui, Judas, il était aussi dans le livre de vie, car le Seigneur a envoyé les 70. Et là aussi, vous devez en effet lire correctement. Il n'a pas dit cela lorsqu'il a envoyé les 12, mais lorsqu'il a envoyé les 70. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais de ce que vos noms sont écrits dans le livre. Comme il est écrit. Merci, frère Bogomolet. Ou dans le ciel, pas dans le livre, dans le ciel. Votre nom est écrit dans le ciel. Merci, frère. Un homme qui connaît bien la Bible. C'est merveilleux. Alors, qui est écrit? Mais alors, qui a été rayé? Un homme qui était dans le livre de vie, mais pas dans le livre de l'agneau. Vous connaissez la différence. Je voudrais vous citer trois passages bibliques du premier coup. Et j'espère que vous avez suffisamment lu les prédications de Frère Branham pour savoir cela aussi. Qui connaît la différence? Bien sûr, vous tous. Bien sûr, l'épouse. Le livre a deux sections. Je peux vous le montrer à partir d'Apocalypse 20, du verset 11. Qu'au jugement final, après les 1000 ans, les livres seront ouverts. Et aussi le livre de vie. Et tous ceux qui ne seront pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Mais ici, il n'y avait pas le livre de vie, le livre de vie de l'agneau, mais le livre de vie, pas celui de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Je vous le lis, je n'en avais pas l'intention, mais avant que je m'en rende compte, je me suis retrouvé de nouveau dans les choses de l'enseignement, et ensuite, je ne sais pas comment en sortir. Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Puis un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Je vous donne un autre verset encore, Apocalypse 13. Et je vous montre qu'ici, il est parlé du livre de vie de l'agneau immolé. Et les autres versets, vous pouvez vous-même les chercher. Sinon, je vais vous ôter la motivation et le courage et l'envie de lire les Saintes Écritures. Et vous faites bien de le faire, de lire. Apocalypse 13, ici, il s'agit d'abord de l'Antichrist. Et au verset 8, que tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Il y a peut-être des noms qui sont inscrits lors de la conversion, je n'en sais rien, car je n'ai pas encore siégé au conseil de Dieu, mais il y a des gens dont les noms ont été écrits avant même la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et là, dans le livre de vie de l'agneau, c'est pas lors de la conversion ou bien quoi, mais c'est avant même la fondation du monde. Ce sont des gens que Dieu a élus, a connus d'avance. Et ce sont ceux qui maintenant croient aux promesses. Ce sont ceux qui craignent Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce sont ceux qui attendaient le Messie, qui avaient attendu le Messie. Mais dans le Nouveau Testament, ce sont ceux qui attendent maintenant le retour du Seigneur. Ceux qui, en leur temps, au cours des 2000 dernières années, n'ont pas compté, ne se sont pas attendus au retour de Jésus-Christ, ne seront pas là, n'en prendront pas part non plus. Cela vous choquerait-il si je vous indiquais le jour, le mois et l'année que Martin Luther avait fixé comme jour du retour de Jésus-Christ? Cela n'arrive pas seulement maintenant. D'autres grands hommes l'ont fait aussi. Tous les hommes qui ont reçu la grâce par Dieu, de Dieu, ont compté sur le retour de Jésus-Christ. Et maintenant, je vous le demande. Je ne suis pas en train de tendre un piège, du moins, je ne l'espère pas. Se sont-ils trompés? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Oui, peut-être de fixer des dates, mais ils ne se sont pas trompés d'attendre le retour du Seigneur. Ils ne se sont pas trompés. Et c'est aussi pour cela que je vais vous lire ce passage afin que vous sachiez que seuls ceux qui ont aimé son apparition seront enlevés et seront auprès du Seigneur. S'ils n'ont pas aimé et attendu son apparition, ça veut dire qu'ils n'avaient pas du tout d'espérance vivante en eux. Et s'ils avaient cette espérance vivante en eux, ils l'ont attendu, ils y ont compté. Quelqu'un m'a aussi dit, aussi quelqu'un qui critique, il dit que Paul s'est aussi trompé, car il a dit, nous ne nous endormirons pas tous. Paul ne s'est pas trompé, tous les critiqueurs se sont trompés, mais pas les hommes de Dieu. La parole de 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de victoire de la justice m'est réservée, car le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. Vous voyez de quoi il s'agit? De tout temps, il y a eu des enfants de Dieu sur cette terre. Ils étaient des étrangers, ils étaient des pèlerins. Ils n'étaient pas chez eux ici. Ils étaient et sont toujours la semence d'Abraham. Et Abraham cherchait une ville dont les fondations seraient solides et sont solides et dont Dieu est le bâtisseur, l'architecte. Nous cherchons la même ville. Et qu'écrit Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, que la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Avez-vous déjà lu cela? Il y a des gens qui parlent d'une église mère et qui regardent ensuite vers Rome. Mais ici, l'Écriture sainte nous dit, dans Galates, au chapitre 4, au verset 26, que la Jérusalem d'en haut est une libre et c'est notre mère. Si l'on dit, ah, revenez dans le sein maternel de l'Église, que tous ceux qui sont nés de son sein y retournent alors. Non, celui qui est né de Dieu retourne à Dieu. Gloire au Dieu vivant. C'est la pure vérité. Ce n'est pas vers là que nous sommes reliés, mais vers le haut, vers le ciel. Êtes-vous reconnaissant pour cela? Je ne sais pas si nous avons déjà pleinement compris ce que Dieu a fait en nous et pour nous. Si nous avons vraiment reconnu et voyons vraiment ce qui est lié à l'élection et à la prédestination et ce que cela signifie d'avoir été prédestiné avant la fondation du monde et être élu à être changé et transformé à l'image du Fils de Dieu. Bien-aimés, alors nous tournerons le dos à tout doute qui voudrait nous ronger et deviendrons reconnaissants. Vraiment devenir vraiment reconnaissants pour le grand privilège que nous avons de ne pas proclamer un évangile trafiqué, un évangile arrangé. Mais comme il est écrit, je vis un ange qui volait dans le ciel, ayant à annoncer à tous les peuples, à toutes les langues et à toutes les nations, l'évangile éternellement valable. C'est un évangile éternellement valable. Et Paul a dit, si quelqu'un annonce un autre évangile, qu'il soit, vous voyez, Dieu prend les choses très au sérieux et très exactes. Il les prend au pied de la lettre, comme on dit. À quel point pouvons-nous être reconnaissants? Il s'agit de revenir à la parole, de revenir à l'enseignement biblique, revenir au fondement, revenir au Seigneur, abandonner toute résistance, revenir au Seigneur, s'unir avec lui, être uni avec lui, un seul corps et un seul esprit avec lui. Tirons encore rapidement de Romains 12, quelques versets plus loin. Verset 10. Dans l'amour fraternel, les uns pour les autres, ayez un cœur particulièrement aimable, disponible et serviable, dans l'honneur et le respect que l'un précède l'autre. Ne vous découragez pas là où le zèle est nécessaire. Soyez ardents d'esprit, prêts à servir le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la souffrance, persévérant dans la prière. Nous remarquons que l'Esprit a parlé à travers d'un cœur de berger. L'Église du Dieu vivant a été mise en garde et avertie et il ne manque vraiment rien. Dites-moi ce que Dieu a oublié de nous dire, rien du tout. À l'époque, il a utilisé ses hommes pour tout mettre par écrit. Même les choses qui s'accomplissent maintenant sous nos yeux. Nous le voyons aussi sur le plan politique. Nous le voyons sur le plan économique. Nous le voyons dans le domaine religieux. Quand on observe l'évolution rapide, alors il suffit que nous levions la tête parce que nous savons que notre rédemption est proche. Par la grâce de Dieu, nous ne nous laissons pas aveugler par l'esprit du temps et par tout tous les grands succès dont parle le monde et dont il se vante. Il y avait un homme de Dieu, un Paul, qui décrivait dans la première, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 jusqu'à la fin. Il a décrit l'enlèvement, le changement de nos corps et la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ. Et il conclut en disant, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et il poursuivit, « Vous savez que la répartition des chapitres est récente. Autrefois, la Bible était sans répartition des chapitres. C'était des rouleaux sur lesquels on écrivait. Aujourd'hui, nous avons des chapitres. Et quoi, qu'est-ce qui s'y infiltre, s'y rattache, chers frères, au sujet des temps et des délais? Il n'est pas nécessaire que je vous écrive. Vous voyez, il rentre dans le chapitre 5, mais ce n'est pas un nouveau chapitre en fait. Laissez-moi lire cela dans les Saintes Écritures et ne pas les citer, s'il vous plaît. Ici, il est écrit, frère Coupefeu, 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Mais pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites à leur sujet. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils disent, maintenant il y a la paix, maintenant règne la paix et la sûreté, la sécurité, alors tout à coup, la destruction les surprend comme les douleurs de l'accouchement chez une femme enceinte et ils n'échapperont certainement pas. La paix ici et la paix là. Et que viendra-t-il? La destruction s'abattra soudainement sur le monde impie. Le monde, soudainement, le monde est en train de concevoir toutes sortes de choses. Puis la percée aura lieu. Et pourtant, nous avons ici une glorieuse consolation au verset 4. Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. N'êtes-vous pas heureux? Ne vous réjouissez-vous pas de ce que, au milieu de toutes les ténèbres, nous puissions voir briller la lumière? Pierre a également écrit au sujet du jour du Seigneur dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 10. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En lui, les cieux passeront avec fracas, les éléments se dissoudront dans un feu ardent et la terre sera consumée par le feu avec toutes les œuvres des hommes qui s'y trouvent. C'est la parole sainte de Dieu. Elle arrive au moment où la grande paix sera proclamée. Cela arrive au moment où la grande paix sera proclamée et quand les grandes festivités seront lancées sur la terre. On exultera comme sur le Titanic et soudain, l'orchestre jouera. Plus près de toi, mon Dieu, le bateau est déjà en train de s'échouer, de s'échouer. Les contractions orageuses, il a déjà commencé à sombrer. Bien-aimés, nous ne sommes pas seulement proches de toutes ces choses, nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Si Jésus, notre Seigneur, était ici aujourd'hui, combien de fois dirait-il, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Nous pourrions encore entrer dans certains domaines, y compris ce qui se passe avec le dollar et tout le reste. Il doit en être ainsi. Et l'euro deviendra la monnaie de référence. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que la prostituée monte et chevauche sur la bête. Et voici la bête Oh non, nous voulons pas ici entrer dans ce sujet. Qu'est-ce qui me fait penser à cela? Oublions cela. Notre Dieu est avec nous. Il va voir ce qui se passe. Nous n'avons rien à perdre. Je plains tous les millionnaires qui se plaignent. Avant, les pauvres se plaignaient. Maintenant, ce sont les riches qui se plaignent. Depuis le dernier lundi noir, le 19 juin, les riches se plaignent aussi parce qu'ils ont subi des dommages. Mais que se passera-t-il quand viendra le grand malheur et la grande misère? Que se passera-t-il alors? Mais alors, nous ne sommes plus ici. Rendons grâce à Dieu, nous ne serons plus ici. Je regarderai alors la situation d'en haut. Amen. D'en haut. Amen. Amen. Je ne suis plus ici. Je ne serai plus ici. Je regarde d'en haut. Je regarderai d'en haut. Louange et merci au Seigneur. Je le répète. Quelle grâce. Vous réalisez maintenant ce que signifie la grâce. Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ton plan. Révèle-moi ta volonté. Et donne-moi la grâce de la faire, de l'accomplir, de la mettre en pratique, de la faire, de l'accomplir. Et lui, qui a été si miséricordieux dans la révélation de toutes ces choses avec nous, n'a-t-il pas fait naître en nous une espérance, une attente qui ne cesse de grandir, une faim et une soif que nous pouvons à peine supporter? Ou l'étanchera-t-il aussi? Oui, il l'apaisera. Mais il attend sans doute encore que la faim, le désir deviennent encore plus grands, que tout simplement chacun crie, Seigneur, enlève l'opprobre de ton peuple et viens au milieu de nous. Témoigne de toi et confirme ta parole. Combien souhaite que l'opprobre soit enlevé de l'Église du Dieu vivant. Et que le Seigneur témoigne de lui-même. Frère Branham a parlé du troisième pull où la parole prononcée sera en activité. Je crois en cela. Je crois de tout mon cœur. Jésus-Christ, notre Seigneur, avait le ministère de la parole parlée. Il a dit au lépreux, je le veux, sois pur. Et il était pur. Il a dit à l'aveugle, sois voyant. Et il voyait. Il n'a pas passé la nuit à prier pour un malade. Non, absolument pas. Il a prononcé la parole. Il a dit à la tempête, couche-toi. Aux vagues, taisez-vous. Les deux étaient acoustiques en un instant. Il parlait. Et ce qu'il disait avait lieu à l'instant même où il le prononçait. Il attend seulement le jour et l'heure où par l'Esprit nous deviendrons en tant qu'Église tellement un avec lui qu'il pourra parler par nous comme il a parlé par frère Branham. Pas le signe du Messie. Je n'en parle pas maintenant. C'était quelque chose d'une une chose unique et cela ne se répétera pas. Cela nous suffit si nous pouvons dire aux aveugles, voyez, retrouvez la vue. Si nous lui disons, tu viens de Bucarest ou bien d'Oslo, cela n'a aucune importance. L'important, c'est que nous puissions lui dire, sois voyant, vois, et au boiteux, marche, et à l'infirme, sois guéri. Cela me suffit. Je ne veux pas savoir grande chose sur les gens. Je veux savoir qu'une chose. Je veux voir Jésus lui-même en action, en scène. Et avant de quitter ce monde, je voudrais voir mon Seigneur tel qu'il était hier, aujourd'hui et éternellement, l'expérimenter, le vivre ainsi. Nous aimerions voir Jésus. Se dire, est-il en vous? Est en vous? Eh bien, merci. Et Dieu, j'allais presque dire, remerciera peut-être aussi, mais j'ai maintenant une question. Combien compte sur le fait que Dieu vous place aussi dans le corps et veut vous utiliser? Je vous en prie. Merci pour les mains. Mais je vous en prie. Éloignez-vous des personnes individuelles. Ne placez pas votre confiance dans le frère Franck, sur le frère Rousse et d'autres frères. Comptez sur le fait que Dieu, toi, bien spécialement, aussi qui passe par toi et par ce, par, avec toi, par ce processus de maturité, de maturation pour vous personnellement, avec vous personnellement et avec vous personnellement. Et que nous allons tous, et pas seulement un, mais nous allons sur, donc tous, nous allons être sur l'autel de Dieu pour connaître la volonté de Dieu, la bonne, agréable et parfaite de Dieu. Oui, pourquoi donc la connaître? Pour pouvoir ensuite la mettre en pratique. À quoi servirait-il de connaître la volonté de Dieu et ensuite de ne pas la faire et la mettre en pratique? Dans le rouleau du livre, il est écrit, à mon sujet, me concernant, je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. La volonté qui est écrite me concernant. C'est la même chose pour nous. Vous pouvez le lire dans le psaume, vous pouvez le lire dans l'épître aux Hébreux. Il y a des promesses. L'une d'entre elles est les œuvres que j'ai faites. Vous les ferez aussi. Pas un individu seul, mais vous au pluriel, vous les ferez. Qui? Le corps, l'église. Frère, mettez-vous à la disposition de Dieu, s'il vous plaît. Vraiment, ne dites pas « je suis un arbre desséché » comme le dit le prophète. Mais dites « je suis un arbre planté près des ruisseaux d'eau et Dieu nous a rafraîchis, Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné dans ces jours quelques, il a montré quelques leçons pour faire abstraction de nous-mêmes, pour ne pas regarder à nous-mêmes et aussi aux autres, mais de regarder au Seigneur pour ne plus abuser de notre bouche, l'utiliser et parler des autres, critiquer ou bien parler trop, mais pour que Dieu puisse utiliser notre bouche et que ce soit pas le diable qui s'en abuse. Dieu veut nous utiliser. Puissions-nous être vraiment au service de Dieu, de la tête aux pieds, tout notre corps, les mains, que Dieu puisse les bénir, la bouche, pour apporter la bonne parole, de manière juste et au bon moment, à ceux qui sont fatigués. Vous connaissez tous l'Écriture. Oh, pour entendre et à la manière des disciples, pour écouter à la manière des disciples, des yeux ouins pour voir. C'est tout cela que Dieu veut faire. Il veut le faire. Je crois qu'il a déjà commencé à le faire. Et il va continuer à le faire. Loué et exalté soit son saint nom. Dès maintenant et à jamais. Et que tout le peuple dise Amen à Dieu et à sa parole. Amen. Que cela se fasse comme Dieu l'a dit. Que cela ait lieu et cela aura lieu parce que c'est Dieu qui l'a dit. Souvenez-vous de la parole de 2 Chroniques. Un homme pourrait-il s'opposer à toi? Non. Te résister, non, aucun homme ne peut te résister. Ce que tu as décidé d'exécuter, tu le feras. Et tu anéantis le conseil des bavards. Et il réalise le conseil proclamé par ses prophètes. Tel est notre Dieu. Il est le témoin fidèle et véridique. Il reste fidèle, même quand il y a des moments dans ta vie. Et ce ne sont que des moments, s'il vous plaît. Ne l'oubliez jamais. Il est peut-être conseillé de vous donner cela en plus pour la route. Il peut arriver à tout le monde d'avoir été inattentif et que des moments lui tombent dessus pendant lesquels il n'a pas réussi l'épreuve, mais ce ne sont pas des jours, des semaines ou des mois. Ce sont des moments, seulement des moments. Et nous sentons que le souverain sacrificateur est proche, que le sang parle pour nous. Personne ne doit se décourager. Croyez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Placez votre espérance exclusivement dans la grâce. Et nous, nous satisferons de sa grâce, même si le diable nous frappe à coups de poing. J'avais l'intention de parler encore de 2 Corinthiens 12, mais nous n'y viendrons pas. Paul a demandé que le diable se retire de lui et que le Seigneur a dit que ma grâce te suffit. Ma force est puissante dans les faibles. Sois faible en toi-même, mais fort en ton Dieu. Sois un incapable en toi-même, mais sois quelqu'un qui peut tout par celui qui m'a rendu fort, c'est-à-dire Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous et prions. Dans la deuxième parole des Chroniques, nous avons lu « Soyez forts et courageux, car vos actions seront récompensées. » Que Dieu nous donne à tous la grâce d'aller de l'avant dans la foi. Frère Rousse, viens prier avec nous. Gloire à Dieu. Dieu fidèle, nous te remercions ensemble pour ta puissante parole. Nous te remercions ensemble pour ta parole. Seigneur, notre prière est maintenant à cette heure qu'elle ne soit pas seulement parvenue à nos oreilles, que nos cœurs soient pénétrés de ta parole, de toutes les vérités que tu nous as données par grâce. Qu'elle demeure dans nos cœurs, ô Seigneur. Que ces heures soient un souvenir, Seigneur fidèle. Car tu as parlé en vérité à ton peuple. Oh, quelle grâce que nous avons la grâce de louer, d'exalter. Ta grâce que nous avons reçue, qui nous a été accordée, qui m'a été accordée, qui nous a été accordée à tous, nous t'adorons et nous te demandons encore une fois que cela n'est pas seulement parvenu à nos oreilles pour s'éteindre dès demain, mais que ta parole demeure dans nos cœurs, ô Seigneur. C'est ma prière et qu'elle ne soit pas ôtée, ô Seigneur, et c'est mon désir du fond de mon cœur. Seigneur, bénis mes frères, bénis tous ceux qui voudraient se laisser baptiser. Seigneur, bénis tout ton peuple. Seigneur, nous te soumettons tout, même les intercessions. Ô Seigneur, ceux qui sont malades, ô Dieu fidèle, nous te les présentons tous. Seigneur, nous ne sommes pas en mesure de les aider, car nous sommes pauvres et misérables. Mais nous venons à toi, Seigneur, avec tout. Et nous te le disons. Ô Seigneur, et tu aideras, Seigneur, car tu es un Dieu qui secourt. Tu n'as jamais rien refusé. Et tu n'as jamais rien échoué. Ô Seigneur, tu aides ceux qui sont sincères. Que la grâce soit rendue. Honneur et gloire à ton nom. Seigneur, je te prie d'être avec mes frères. Et sera, alors que nous quittons maintenant, de nous garder ensemble dans un même amour, dans le lien de ton amour, Dieu fidèle, et que nous puissions, Seigneur, prier toujours les uns pour les autres et être là les uns pour les autres, comme nous l'avons entendu de ta parole. Que notre pardon n'ait pas été seulement extérieur et illusoire, mais qu'il se soit produit dans les faits. En acte et en vérité. Ô Seigneur, que ta parole et tout ce pourquoi tu l'as envoyé, que toutes ces choses soient opérées en nous par ta grâce. Dieu fidèle, quel produit des faits pour lequel tu l'as envoyé. Nous aimerions encore emporter ces paroles sur le chemin tiré de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Et 14, veillez, affermissez votre foi, prenez courage, fortifiez-vous, que tout se passe chez vous avec amour. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions d'avoir écrit ces paroles, qu'elles pénètrent nos cœurs et toutes les autres paroles que nous avons entendues. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.